Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue sur RFI dans Appel sur l'actualité. Incendies, destructions et pillages se multiplient au Nigeria après ce qu'on appelle déjà sur place le Bloody Tuesday. Mardi soir à Lagos, la police a tiré à balles réelles sur un sit-in pacifique. Bilan, selon Amnesty International, 12 morts. Le gouverneur de l'état de Lagos, lui, ne reconnaît qu'une seule victime. Les condamnations internationales se multiplient. ONU, Union Européenne, Royaume-Uni, sur les réseaux sociaux, les stars se mobilisent. Davido, Burna Boy, Beyoncé, Rihanna ou encore Wizkid. Wizkid qui appelle le président nigérian Muhammadu Buhari à démissionner. Cette nuit, le chef de l'Union africaine Moussa Faki a condamné les violences à Lagos et appelé à la désescalade. Pourquoi le mouvement de protestation contre les violences policières s'est-il transformé en contestation globale contre le pouvoir, la mauvaise gouvernance, la corruption? Jusqu'où ira la fronde? Le régime Buhari est-il menacé? Dites-nous ce que vous en pensez. Appelez-nous sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Radio, bonjour.
Bonjour Chantal et bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de la RFI ici à Mandoury.
Voilà, donc vous nous appelez du Togo et vous êtes intéressé par le Soudan. En ligne avec nous, Jean-Baptiste Galopin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheur et spécialiste du Soudan, justement. Radio, on vous écoute.
Ok. Donald Trump a annoncé le retrait du Soudan de la liste américaine des États soutenant le terrorisme à 2 semaines de l'élection présidentielle américaine. Quelles sont les conséquences économiques et politiques pour le Soudan du retrait de cette liste?
Jean-Baptiste Galopin, d'abord un petit rappel. Pourquoi le Soudan figurait-il depuis 1993 sur cette liste noire américaine?
Écoutez, à l'époque, c'était le régime d'Omar el-Bashir qui, en fait, était très actif dans le soutien au groupe islamiste dans la région. Et c'est notamment le soutien soudanais au groupe islamiste somalien qui avait encouragé les États-Unis à mettre le Soudan sur cette liste. Par la suite, le Soudan également a hébergé Osama Ben Laden jusqu'en 96, où il a été expulsé à la demande notamment des Américains.
Alors Donald Trump a donc annoncé sur Twitter lundi qu'il allait retirer le Soudan de la liste noire, mais ce n'est pas sans contrepartie. Il a conclu avec Khartoum un deal, entre guillemets, pour reprendre son terme favori.
Pardon, excusez-moi.
Oui, je disais que Donald Trump a annoncé qu'il allait donc retirer le Soudan de la liste noire, mais il y a une contrepartie. Il a conclu un deal avec Khartoum.
Oui, alors il y a un deal dont certains des paramètres ne sont pas encore connus et les jours qui viennent vont clarifier la situation. La question reste notamment de savoir si la normalisation des liens entre le Soudan et Israël va être c'est une contrepartie attendue par les Américains pour enlever le Soudan de cette liste des États qui soutiennent le terrorisme.
Voilà, c'est justement la deuxième question que Radio voulait vous poser. Est-ce que le retrait de cette liste pourrait inciter le Soudan à l'instauration de relations diplomatiques avec l'État hébreu, comme le souhaite Donald Trump? Et les choses, d'ailleurs, semblent s'accélérer, Jean-Baptiste Galopin, puisqu'une délégation israélienne s'est rendue hier à Khartoum pour parler normalisation.
Voilà, alors en fait, il semble, si c'est une contrepartie américaine, les Américains ont l'opportunité encore de ne pas procéder à ce retrait dans l'éventualité où le Soudan ne normalise pas les relations avec Israël. Donc il y a une séquence en fait qui a été mise en place et qui n'est pas encore publique et qu'on va découvrir dans les jours qui viennent. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait ce processus de discussion du retrait du Soudan de cette liste est un processus qui était un processus bureaucratique et politique assez complexe, et ça faisait presque un an qu'on attendait que les États-Unis bougent là-dessus. Et en fait, Mike Pompeo a utilisé l'occasion de cet accord de paix avec les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et Israël il y a quelques semaines pour en fait imposer au Premier ministre soudanais Hamdok la normalisation avec Israël comme condition en fait à la levée de cette désignation américaine. Donc il est difficile de ne pas interpréter cet épisode comme une tentative de chantage cynique qui vise à apporter à Trump une victoire politique et diplomatique à quelques semaines des élections. Après, les conséquences sur le Soudan et les États-Unis vont être importantes. Ça ouvre la voie à un soutien américain concernant l'annulation de la dette soudanaise. On a actuellement un programme en cours avec le FMI qui vise à évaluer les nouvelles politiques économiques soudanaises, justement dans la vue de lever cette dette. Et les États-Unis jusqu'à présent ont été forcés de voter contre. Mais là, ils vont enfin pouvoir soutenir ça. On a par ailleurs, ça ouvre la voie à une aide humanitaire et de développement américain significative. Et puis, ça va permettre aux grandes banques occidentales d'établir des relations de correspondance avec les banques soudanaises, qui est sûrement l'élément le plus important, puisque ça permet de commencer à intégrer le Soudan dans l'économie mondiale et aussi de capturer une partie des remittances, ces envois de fonds des Soudanais vivant à l'étranger, au profit de la stabilisation de la monnaie qui fait face aujourd'hui à une inflation de plus de 200%. Ça, les conséquences politiques...
Brièvement, Jean-Baptiste.
D'un point de vue international, bon, ça permet de normaliser les relations entre les États-Unis et le Soudan. D'un point de vue interne au Soudan, ça reste à voir puisque il y a une grande partie de l'opinion publique soudanaise qui est hostile à la normalisation avec Israël. Donc, ce qui devrait être une victoire politique pour le gouvernement soudanais d'avoir obtenu cette levée de la désignation américaine, en fait, pourrait poser un risque pour le gouvernement en encourageant la mobilisation d'une partie de l'opinion soudanaise qui est opposée à cette normalisation. Donc les choses restent très fluides et il va falloir voir ce qui se passe dans les jours qui viennent.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Galopin pour ces explications radio. Merci aussi d'avoir été en ligne avec nous. Bonne journée donc au Togo. Kalilou, bonjour.
Bonjour Chantal et bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez de Cotonou au Bénin et vous vous intéressez à ce qui se passe au Mali. Pour répondre à vos questions, David Bachet du service Afrique de RFI est en ligne avec nous. Bonjour David.
Bonjour Chantal et bonjour Kalilou.
Kalilou, vous avez la parole, on vous écoute.
Le village de Marabou, situé à une centaine de kilomètres au nord de Bamako, est assiégé par des combattants depuis plus de 2 semaines. Alors, qui sont ces combattants? Que veulent-ils? Et pourquoi avoir pris pour cible ce village en particulier?
David Bachet.
Oui, alors Farabougou est un peu plus loin de Bamako que ça, hein, mais c'est dans la région de Ségou, plus précisément dans le cercle d'Oniono. Alors, qui sont ces assaillants? D'abord, les habitants de Farabougou eux-mêmes, et puis de nombreuses sources locales aussi, tous parlent unanimement de djihadistes. Et c'est un terme qui est également utilisé par les membres de l'équipe de médiation, qui sont en contact avec ces hommes armés via des intermédiaires, et qui expliquent que les assaillants eux-mêmes se revendiquent comme tels, sans toutefois confirmer leur appartenance à un groupe en particulier. Alors, certains médiateurs avec qui j'ai pu en discuter, estiment, selon leurs propres observations, disent-ils, qu'il pourrait s'agir de combattants du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est dirigé par Riyad Al-Khali et qui est lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et ils pensent même qu'il s'agirait plus précisément des hommes d'Amadou Koufa, prédicateur malien qui a fondé le Front de Libération du Massina dans le centre du pays, qu'on appelle aujourd'hui la Katiba Massina. Ils disent que c'est ce qu'ils observent, mais ils ne peuvent l'affirmer de manière sûre.
Mais ils ne sont pas les seuls à le penser, David.
Effectivement, plusieurs sources militaires ou sécuritaires partagent cette analyse. L'une d'entre elles rappelle d'ailleurs que Farabougou se trouve à proximité de la forêt de Ouagadou, qui sert régulièrement de refuge à ces groupes terroristes. Et puis surtout, il y a eu dans la zone de nombreuses attaques par le passé, à Nampala, à Diabali, Sokolo ou encore à Niono, qui ont été revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et pour certaines d'entre elles, par la Katiba Massina, précisément. Je précise qu'à ce jour, l'attaque puis le blocus de Farabougou n'ont fait l'objet d'aucune revendication.
Et pourquoi aurait-il ciblé ce village en particulier ?
Alors, ce que rapportent les membres de la médiation, c'est que les djihadistes disent avoir attaqué Farabougou parce qu'ils accusent des membres de ce village d'être eux-mêmes impliqués dans l'assassinat de plusieurs membres de la communauté Peul. Le dernier en date, qui aurait motivé ce coup de force, c'est un jeune berger retrouvé mort dans son champ au début du mois. Et avant cela, il y aurait eu d'autres cas et aussi des accusations de vol de bétail. Et donc, les djihadistes présentent cette attaque contre Farabougou comme une mesure de représailles. Selon les habitants de Farabougou, cette attaque aurait fait 6 victimes et 9 villageois seraient toujours détenus par les djihadistes. En tout état de cause, ce qu'on comprend à Chantal, c'est qu'il y a ici
C'est un conflit, hein.
Il y a ici un conflit entre communautés voisines qui se superposent aux conflits politiques et idéologiques. Il y a des tensions entre des villageois Bambara et les chasseurs traditionnels d'Ozo qui protègent Farabougou d'un côté, et de l'autre côté des communautés peules voisines que défendent ou prétendent défendre les groupes terroristes. Et tout cela crée une situation très complexe, et c'est précisément à tous ces nœuds que l'équipe de médiation essaie de trouver des solutions. Une équipe qui est elle-même composée, entre autres, de représentants des différentes communautés et de religieux.
Kalilou, vous avez une autre question pour David Bachet.
Oui, l'armée malienne et les missions étrangères sont en place pour mettre fin à cette situation.
Voilà, David, vous avez entendu. Donc, quel rôle joue l'État malien et les missions étrangères qui sont présentes au Mali pour mettre un terme à cette situation?
Alors justement, le rôle de l'État malien est plutôt sujet à polémique en ce moment au Mali, parce que la situation s'éternise d'abord, et puis parce qu'il n'y a quasiment pas de communication officielle sur le sujet. Il y a eu un simple communiqué qui a été lu sur l'ORTM, la radio-télévision d'État, lundi soir, mais aucune prise de parole d'aucun ministre ou haut responsable national. Aucun ministre ne s'est même rendu sur place, par exemple, pour rencontrer les médiateurs. Alors est-ce qu'il s'agit d'inaction, ou plutôt d'une forme de discrétion pour ne pas mettre de l'huile sur le feu et laisser la médiation faire son travail? On peut aussi les choses comme ça. En tout cas, l'État est plutôt discret, pour le dire ainsi, mais pas du tout absent, puisque les autorités territoriales, et notamment le gouvernorat et la préfecture, suivent de très près tout ce qui se passe, et ça, les médiateurs eux-mêmes le reconnaissent.
Et du côté de l'armée malienne ?
Alors l'armée est présente dans la zone, elle a d'ailleurs largué des vivres aux habitants de Farabougou par avion, c'était lundi et mardi. L'armée n'est pas intervenue les armes à la main, elle n'est pas entrée dans le village, ce que lui reproche une partie de l'opinion publique, mais le ministère de la Défense n'exclut pas cette possibilité dans le communiqué dont je vous parlais. Il faut dire aussi que les routes sont difficilement praticables, il y a beaucoup de boue, on craint que des mines aient été laissées sur les pistes par les assaillants. Et puis je rappelle que les médiateurs eux-mêmes ne veulent pas d'une intervention militaire pour le moment, ils demandent qu'on les laisse pour suivre le dialogue pour éviter d'embraser toute la zone.
Merci beaucoup David Bachet pour ces précisions. Kalilou, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Cotonou. On va maintenant faire un point coronavirus. À mes côtés, Simon Rosé, journaliste au service France de RFI. Bonjour Simon.
Bonjour Chantal.
Et au téléphone en ligne de Pointe-Noire, Peter, bonjour.
Bonjour Chantal.
Alors Peter, que voulez-vous savoir? Quelles questions voulez-vous poser à Simon?
En effet, une étude scientifique apparue aux USA la semaine dernière traitant sur 5 cas de réinfection au Covid-19. Et ma première question, comment les scientifiques expliquent-ils ces cas de réinfection? Et la deuxième, pourquoi certaines personnes ont les symptômes les plus graves que lors de leur première infection?
Alors Simon, d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de cas de réinfection dans le monde?
Non. On parle d'une vingtaine de cas recensés dans le monde, dont 4-5 seraient réellement décrits à Hong Kong, aux Pays-Bas, en Belgique, aux États-Unis. Juste pour rappel, c'est 41 millions de personnes contaminées aujourd'hui, une vingtaine de cas, donc on est vraiment sur un phénomène qui est très très minoritaire.
Qui est intriguant.
Qui est intriguant et qui pose beaucoup de questions pour la suite, on va le voir. Qu'est-ce qu'on explique ces cas de réinfection? Il apparaît que dans ceux qui ont été décrits aujourd'hui, ces personnes auraient été infectées par une autre souche, une autre variante du coronavirus. Vous savez que le coronavirus, comme tous les virus, au gré de sa réplication, de sa vie de virus, il peut muter. Parfois, il y a des petits changements qui peuvent s'opérer. En général, c'est sans conséquence. Et de fait, il y a deux souches aujourd'hui qui dominent dans le monde. Et ces personnes auraient été contaminées par les deux. C'est ce qui explique pourquoi ce qui expliquerait, parce que j'utilise le conditionnel parce qu'il y a encore beaucoup de questions, pourquoi ces premières personnes, après leur première contamination, n'auraient pas développé une immunité qui leur aurait permis d'échapper à la deuxième. Quant à la deuxième question de Peter, pourquoi est-ce que ces personnes ont développé des symptômes plus grave lors de la deuxième contamination. Là également, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a certaines pistes qui sont avancées, notamment une étude chinoise de l'université de Fudan à Shanghai qui a été prépubliée cette semaine. Donc, elle est en prépublication, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore été relue par les pairs dans un journal à comité de lecture. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, ça demande à être confirmé. Mais il y aurait un phénomène qu'on connaît assez mal qui s'appelle la facilitation de l'infection par les anticorps. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'on n'a pas le temps, mais je vous invite, Peter, à réécouter le focus de la rédaction ce matin. J'en parlais, qui doit être mis en ligne à l'heure actuelle sur le site de RFI.fr où je reviens longuement là-dessus sur ce mécanisme de facilitation de l'infection par les anticorps. C'est quelque chose qui est assez mal connu mais qui nous a causé des problèmes pour d'autres maladies, notamment la dengue, qui a posé des problèmes dans le développement du vaccin qui aurait entraîné des complications et qui fait que notre système immunitaire, paradoxalement, après une première infection, peut en favoriser une deuxième. Donc ce sont encore des mécanismes assez mal compris, ce sont des études préliminaires, ça demande à être confirmé, mais c'est une des pistes envisagées.
Et le principe de l'immunité collective, désormais, il faut le laisser aux oubliettes.
Si c'est avéré, il faut déjà se poser des questions éthiques, de laisser les personnes se contaminer jusqu'à obtenir ce seuil d'immunité collective qu'on situe à 60-70% de la population. Donc ça entraîne des morts, hein, donc il y a des questions éthiques. Et si effectivement il y a des réinfections qui sont plus graves, là pour le coup ça n'a plus aucun intérêt.
Merci beaucoup Simon Rosé pour ces précisions et j'invite nos auditeurs effectivement à se rendre sur le site de RFI.fr pour réécouter votre focus sur le coronavirus, hein, votre point hebdomadaire. Peter, bonne journée à Pointe-Noire. On va passer maintenant à la situation au Nigeria. Couvre-feu, manifestation, répression. La situation devient explosive dans le pays et l'annonce par le président Buhari de la dissolution de la SARS, une unité de police honnie par la population, n'a pas calmer la colère, notamment des jeunes. Tim, bonjour.
Bonjour Charlotte.
Non, c'est Chantal, mais c'est pas grave. Vous nous appelez de Kinshasa. En ligne d'Abuja, Lisa Fabian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RFI au Nigeria et vous êtes prête à répondre aux questions de Tim. Tim, on vous écoute.
Alors, comment expliquer la poursuite des manifestations alors que la brigade SARS a été supprimée et quelles sont les revendications des manifestants?
Lisa Fabian.
Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que depuis hier, ce sont surtout des casseurs ou des bandes opportunistes qui bravent les mesures de couvre-feu mises en place dans 8 États nigérians. Il est vrai que certains manifestants contre les violences policières sont encore sortis dans les rues ou dans certaines villes ou certains quartiers ce mercredi, mais bien moins nombreux que lors des manifestations pacifiques des derniers jours. Les revendications de la jeunesse, elles sont intactes. Celle-ci attend des actions concrètes et des preuves de l'engagement du gouvernement nigérian pour une réforme globale de la police et des actions pour dédommager les victimes et punir les coupables de brutalité. Les manifestants du mouvement N-SARS réclament aussi plus globalement une meilleure gouvernance au Nigeria. Alors vous l'avez dit, le gouvernement a fait des promesses en ce sens, c'est vrai. Hier, le président Muhammadu Buhari s'est félicité de la mise en place de commissions d'enquête pour rendre justice aux victimes de violences policières. Le problème, c'est que personne n'y croit vraiment, puisque la police a déjà été réformée officiellement 4 fois ces dernières années au Nigeria, sans que rien ne change dans les faits. Et puis, il y a maintenant peu de chances que la confiance revienne. Après la violente répression menée mardi soir à Lagos par les forces de sécurité, qui ont tiré à balles réelles sur les manifestants, faisant au moins 12 morts, selon Amnesty International.
Tim, vous avez une autre question pour Lisa Fabian?
Oui, alors, les violences policières qui ont émaillé les manifestations des mardi soir peuvent-elles effrayer les manifestants ou au contraire renforcer le mouvement des contestations?
Lisa.
Alors une fois encore, il faut bien faire la distinction entre les manifestants dont beaucoup sont rentrés chez eux après l'intervention de l'armée mardi et les bandes de casseurs qui continuent de semer le chaos, notamment à Lagos. Les manifestations initiales sont de fait quasiment interdites avec la promulgation de mesures de couvre-feu dans plusieurs États nigérians. Mais en optant pour une reprise en main brutale, les autorités du pays ont en fait pris le risque de voir la situation leur échapper totalement. D'abord parce que les responsables politiques locaux sont soupçonnés d'avoir payé et armé certains casseurs qui s'en prennent aujourd'hui aux bâtiments publics après avoir régulièrement attaqué les manifestants ces derniers jours. Ensuite, parce que la répression organisée par les forces de sécurité semble avoir déchaîné la colère d'une partie de la population, notamment dans la mégalopole de Lagos, où l'on assiste depuis hier à des scènes de pillage et de vandalisme de grande ampleur. Du coup, pour l'instant, la stratégie des autorités semble surtout avoir attiser l'insécurité dans une bonne partie du Nigeria, une situation d'autant plus dangereuse que l'on sait que la police est en sous-effectif et qu'elle ne possède certainement pas assez d'hommes pour contrôler une ville de la taille de Lagos qui compte tout de même 20 millions d'habitants.
En quelques mots, Lisa, qu'est-ce qui pourrait calmer la situation ?
Eh bien là-dessus, analystes et militants sont d'accord. Il faudrait avant tout que le président Muhammadu Buhari prenne la parole, ce qu'il n'a jamais fait depuis le début de cette crise. Cela fait pourtant des semaines que les manifestants demandent au chef de l'État de s'adresser à la nation, ne serait-ce que pour dire qu'il a entendu la souffrance de la population nigériane et ses revendications.
Merci Lisa Fabian, merci Tim. On va continuer à discuter de la situation au Nigeria dans la seconde partie de l'émission. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64.